Aujourd'hui, de plus en plus de gens envisagent sérieusement le travail temporaire, pour le sentiment de liberté qu'il procure. Ce qu'ils envisagent moins, en revanche, c'est de vivre avec un sentiment d'inconfort, par manque de visibilité sur les prochaines missions. Le problème, c'est qu'on n'a pas l'un sans l'autre. Quoique, il doit bien y avoir des solutions, non ?
On parle beaucoup du monde d'après. Si on parlait aussi du monde du travail d'après, découvrez nos nouvelles solutions d'intérim sur randstad.fr. Randstad. Human Forward. L'humain pour aller plus loin.
Vous écoutez
RMC. RMC Sport Show.
Oussem Moussaïef, Thibaut Jeangrande.
Salut tout le monde, comment ça va ? Bienvenue dans le RMC Sport Show, le rendez-vous sport du dimanche soir à la radio. Une heure pour revenir sur l'actu forte de ce week-end avec, comme toute la semaine, évidemment, Oussem Moussaïef.
Salut Thibaut, bonsoir à tous.
Et également, comme tous les dimanches, notre membre de la Dream Team RMC Sport, l'athlète malicieuse du Moscato Show. Salut Maryse.
Salut.
Salut Maryse.
Le programme Oussem.
Dans quelques secondes, invité exceptionnel, la ministre déléguée au sport, Roxana Maras. Signe à nous sera avec nous, le sport amateur, le sport professionnel, tous les sujets, toutes les interrogations lui seront présentées à 19h30. On reviendra sur la victoire du 15 de France sur la pelouse de l'Écosse, 22-15. Les Bleus ont lavé un affront vieux de 8 mois, on n'oubliera pas la finale des Masters de Londres. Medvedev affronte Tim et puis à 19h45, la judoka française la plus titrée sera avec nous. Clarissa Agbenienou reviendra sur son tout récent titre de championne d'Europe.
Il est 19h05, bienvenue sur RMC et bonsoir Roxana Maracineanu.
Bonsoir.
Bienvenue dans le RMC Sport Show, je vous présente Oussem Loussaïef.
Bonsoir Madame la Ministre.
Maryse Evangépé qui est là également avec nous, un petit peu à distance, Maryse.
Bonsoir.
Je le rappelle quand même par exemple à Oussem avant d'être
ministre. Rappelle-moi quelque chose.
Roxana Maracineanu, vous êtes, qu'est-ce qu'elle a gagné ?
Une patineuse.
Non, pas loin. Nageuse, championne du monde, vice-championne olympique, championne d'Europe de natation. Est-ce que vous faites encore du sport aujourd'hui Madame la Ministre ?
Je m'y suis remise.
Il faut
arriver à s'entretenir régulièrement dans cette période qui est un peu compliquée, beaucoup de travail, donc il faut souffler un peu.
Et vous faites quoi en ce moment ?
Je cours.
Et donc, 1 kilomètre de chez vous ?
Voilà, j'ai la chance d'habiter à côté d'un bois et j'y vais régulièrement.
Est-ce que vous vous dites quand même, justement, là je m'adresse peut-être plus à l'ancienne championne, à la sportive qui court toujours en ce moment, quand vous voyez des collèges avec parfois plus de 30 élèves par classe, quand vous voyez des parcs, on le voyait encore ce matin avec pas mal de monde, est-ce que vous ne dites pas en tant qu'ancienne championne que ce kilomètre, c'est quand même très restrictif pour faire du sport par rapport à d'autres situations ?
Eh ben, bizarrement, dans le bois à côté duquel j'habite, je vois beaucoup plus de monde qu'avant et puis il y a des familles qui sortent ensemble. Nous, on va souvent jouer au foot dans la forêt et puis on a plein de petits groupes comme ça entre eux et j'ai jamais vu autant de monde faire du sport bizarrement.
Et donc, qu'est-ce que vous en déduisez ?
Vous n'avez pas vu Thibaut, ça c'est sûr.
Que ce confinement, il a du bon. Il a du bon pour l'activité physique parce que du coup, on a plus de temps et puis on a tendance aussi à passer plus de temps en famille, à s'occuper plus de ses enfants. Et c'est sûr que le sport et l'activité physique, c'est quelque chose qui rassemble. Donc, c'est très bien pour mon secteur, en tout cas.
Est-ce que vous êtes sûr que toutes ces familles viennent du kilomètre exigé ?
J'ai pas appelé encore le ministère de l'Intérieur pour qu'ils viennent vérifier, mais moi, je suis ravie de les voir courir.
Mais juste pour terminer sur ce kilomètre, alors vous avez de la chance d'être à moins d'un kilomètre d'un bois, ce qui n'est pas le cas, évidemment, notamment quand on habite en plein Paris. Vous comprenez quand même, on parle pas forcément des sportifs vraiment du dimanche qui s'y sont mis parce que c'est un peu la seule manière qu'ils ont d'aller faire du sport, de sortir, voilà. Mais ceux qui ont l'habitude d'aller courir, même hors confinement, et qui n'ont pas de bois à côté, qui ont 1 kilomètre ou d'aller faire du vélo, par exemple, on a beaucoup de messages, effectivement, de vététistes ou même de vélo sur route. Ce kilomètre, vous comprenez qu'ils soient agacés de ne pas pouvoir dépasser cette limite du kilomètre ?
Je suis consciente que c'est très compliqué, très difficile pour tout le monde, surtout ceux qui habitent, les personnes qui sont en zone urbaine, qui doivent se limiter à faire une petite marche autour de chez eux, au milieu des immeubles. Mais je crois qu'on doit tous encore faire un petit effort. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps. Il faut qu'on soit rigoureux et puis que derrière, ça puisse reprendre comme d'habitude et qu'on aille plutôt vers une normalisation des choses que sortir petit à petit avec des gens qui veulent chacun faire ce qui leur plaît. C'est mieux d'avoir cette discipline, je crois, d'ensemble pour pouvoir tous sortir ensemble de cette crise plus fort.
Madame la Ministre, je me permets de rebondir sur ce que disait Thibaut, sur les nombreux messages qu'on reçoit lorsqu'on a annoncé qu'on vous recevait ici sur RMC. Il y a des nombreux messages qui se ressemblent, notamment sur le parent pauvre. Le sport se présente comme un parent pauvre de la crise. On a l'impression qu'il n'est pas assez représenté, que ce soit dans l'attribution des budgets dont on va parler tout à l'heure, mais on a l'impression que le sport a été un peu oublié. Est-ce que c'est votre ressenti ? Et surtout, qu'est-ce que vous répondez à tous ceux qui nous envoient ces messages-là ?
Après la réunion de 2h30 que les acteurs du sport ont fait autour du président de la République avec 4 ministres autour de la table, je pense qu'on peut pas dire ça aujourd'hui. Moi, je le sais parce que je suis à l'intérieur du gouvernement et que je sais qu'il y a un président de la République qui sait que le sport compte dans la société, qu'il y a un premier ministre très concerné pour avoir lui été DIJOP. C'est la personne qui s'occupe de l'organisation des Jeux Olympiques de 2024 en France. Donc, avec tous les autres ministres que j'ai réussi à convaincre depuis 2 ans que le sport était un outil aussi d'intégration sociale, un outil pour la santé, un outil d'éducation, on ne peut vraiment pas dire que le sport est oublié et qu'on n'y accorde pas d'importance. Et on l'a vu avec les mesures aussi financières qui ont été annoncées début de semaine.
Et on va en reparler. Maryse.
Mais c'est moi j'ai été ravie de voir ces mesures qui arrivaient. Simplement, je trouve malgré tout que ça arrive tard et que et pendant le premier confinement et sur celui-là, c'est arrivé extrêmement tard. Notamment, pour l'instant, on a la sensation que la reprise du sport amateur, personne n'en parle ou très peu, mais peut-être que je me trompe et je l'espère. La reprise des mineurs, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que jusqu'à présent, bien on voit les mineurs qui sont conviés fortement, même on leur demande d'aller en classe, d'aller à l'école, d'aller dans les lycées, de prendre des transports. Mais par contre, au sortir de ces écoles, de ces lycées, de ces transports, au moment où ils pourraient enlever leur masque, s'aérer un peu, aller sur un stade, là on leur dit non, là c'est dangereux. Moi j'avoue que j'ai beaucoup de mal à comprendre.
On a réussi à préserver l'activité pour les mineurs jusqu'à 2 semaines. C'était pas le cas pour beaucoup d'autres secteurs d'activité. Le sport professionnel est préservé, contrairement à ce qui s'était passé au mois de mars. On n'avait pas de recul sur l'activité de ce virus, y compris pour les personnes asymptomatiques, comme beaucoup de sportifs le sont. Donc maintenant qu'on n'a plus ce souci, j'allais dire, prioritaire de préservation de la santé des sportifs et qu'ils sont surtout testés très régulièrement et qu'on peut voir un peu plus loin pour eux, eh bien on les a autorisés à faire du sport. Les personnes qui en font pour leur santé, sur ordonnance, les personnes handicapées, et puis toutes les personnes d'ailleurs, qu'elles soient adultes ou enfants, peuvent en faire et c'est un motif de sortie, dérogatoire de sortie. Donc on peut pas dire oui, mais que le sport là, évidemment, ne soit pas considéré.
Je ne parle pas du sport dans le périmètre carré ou dans le périmètre autour du domicile, mais bien évidemment là je parle
du sport encadré
de club, donc du sport encadré. On a la sensation finalement qu'une même personne n'est pas la même quand elle arrive en club, c'est-à-dire que le club c'est pas autorisé. On peut faire du sport autour de sa maison, mais par contre un sport qui soit codifié, qui soit sur un stade, qui soit avec des éducateurs qui, eux, sont masqués parce que tout le monde a respecté les consignes. Un sport qui soit dans une salle de façon encadrée, etc., ça n'est pas possible.
Je crois que tout le monde a compris aujourd'hui qu'il faut qu'on limite les mélanges entre les personnes, les brassages, ce qu'on appelle les brassages. C'est le nouveau protocole qu'on travaille aujourd'hui avec les associations, ces encadrants du sport, pour qu'elles puissent proposer là, courant décembre, un nouveau protocole. C'est vrai qu'on a dû appuyer sur pause pendant 3 semaines, le temps qu'elles y voient plus clair, et qu'on puisse nous aussi avancer sur ce protocole où les assos vont pouvoir reprendre, mais en montrant qu'elles sont en capacité de ne pas mélanger les classes, les publics, les enfants qui viennent des autres villes. Aujourd'hui, le sport scolaire est autorisé, le sport des associations sportives de l'école, de la même école, ces enfants ont le droit d'aller dans des équipements sportifs de manière encadrée. Et comme vous le dites, Maryse, eh bien c'est le même enfant qui va dans l'association,
voilà,
mais il ne faut pas qu'il soit au contact de trop d'autres enfants.
Bah, en fait, les protocoles, on les avait déjà très fortement respectés parce que à l'issue du premier confinement, c'était de toute façon une condition sine qua non. Les collectivités restent frileuses. C'est-à-dire qu'elles restent, évidemment, un maire, il va écouter ce que dit son préfet, le préfet va écouter ce que dit son président. Donc, on a eu des consignes. Quand on a repris au mois de mai, honnêtement, on a donné des bouquins de plusieurs pages à nos collectivités pour indiquer les protocoles qu'on allait faire. Donc, tout d'un coup, on dit, mais on nous a fait confiance à ce moment-là. Et on ne nous fait plus confiance en hiver, alors que tout est respecté depuis des mois et des mois et qu'il n'y a pas eu de cas en plus.
Alors,
notamment dans les sports en extérieur, on a eu très 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 peu de cas dans les associations.
Donc, Maryse, je vais rebondir sur ce que tu dis pour poser la question à Roxana Maracineanu, qui est l'invitée ce soir du RMC Sport Show. Vous en avez parlé de la reprise du sport pour les mineurs notamment cette semaine. Le mois de décembre a été annoncé. Quand ma fille pourra reprendre la danse? Est-ce que c'est dans 9 jours le 1er décembre ou c'est fin décembre? Et quel est le protocole qui sera mis en place?
On doit tous se battre pour que les mineurs puissent reprendre. Il ne s'agit pas d'un assouplissement des règles, mais bien d'une adaptation pour un secteur qui en a besoin, parce que les assos ont besoin de ce minimum d'activité, parce que sinon elles risquent de faire saison blanche. Elles vont devoir rembourser toutes les cotisations qu'elles ont recueillies au mois de septembre. Et ça, c'est inacceptable. C'est pas possible que les associations ne puissent pas les retrouver lorsque ça ira mieux en janvier ou en février.
Mais déjà, s'il y a saison blanche, elles devront rembourser. ce que vous dites.
Non, mais en fait, comme elles doivent rembourser si jamais on n'autorise personne à aller dans des associations, derrière, le risque, c'est qu'il y ait saison blanche et que ces acteurs, qui sont les seuls, peut-être, dans notre société, à faire attention aux autres aujourd'hui, les associations, pas que sportives, c'est le seul endroit où il y a du vivre ensemble, du lien, et c'est ce lien-là qu'on va vouloir retrouver en sortie de crise. Donc, c'est essentiel de les préserver. Et puis, évidemment, pour la santé de nos enfants, le bien-être psychologique, et je sais que vous allez me dire, évidemment, c'est la même chose pour les adultes. Mais ils ont d'autres possibilités c'était de le faire. Suite. Les enfants, eux, voilà, l'école, c'est essentiel. Et l'activité sportive, quand c'est essentiel.
Madame la ministre, quels sont
en
les...
décembre, ouais. On espère.
Mais il n'y a pas de date exacte, ouais. C'est ça
dans ce que jours, je disais, dans, ce que je disais, c'est qu'il faut qu'on se batte tous. Moi, ouais. C'est évidemment ce que je vais proposer à la cellule interministérielle de crise. Mais j'attends aussi que les maires, dont vous avez parlé tout à l'heure, Maryse, eh bien, se positionnent et disent, voilà, nous, on va ouvrir les équipements sportifs à ces associations. Parce que vous savez, les associations, ça ne dépend pas que de l'État. Hein. C'est,
non, mais
le
la réalité
premier,
du
c'est
du
les
terrain,
maires qui vont être heureux de les retrouver.
La réalité du terrain, et pourtant, on a un travail fin avec notre collectivité, là je parle en tant que présidente de club, hein.
D'un club d'athlétisme
d'une ville de 70 000 ouais. habitants, très honnêtement les mairies ont très envie de réouvrir, mais elles regardent du côté des préfectures qui regardent du côté d'en haut, c'est comme ça, et donc si le préfet dit moi je n'y suis pas favorable, les maires disent bon ben on est désolé, on aimerait bien mais on fait pas.
Aujourd'hui, il y a des publics autorisés, même dans ces équipements fermés. Il s'agit des personnes porteuses de handicap, il s'agit des personnes qui font du sport sur ordonnance, des scolaires. Voilà, ça c'est autorisé par le préfet. Le préfet, il va pas venir dire au maire, vous accueillez pas le cycle piscine dans la piscine pour les CE2. Ils sont autorisés à y aller. Les sportifs de haut niveau également. Donc, quand vous recevez, vous, association, un non-go de la part du maire, c'est lui qui décide. Donc, il peut décider à l'inverse, puisque c'est autorisé aujourd'hui.
Madame la ministre, je me permets de rebondir sur ce que vous dites sur les sportifs professionnels. On a en France des gens qui sont entre les deux, qui ne sont pas totalement amateurs, qui s'entraînent 4 fois par semaine, voire 5 fois, et qui ne sont pas considérés comme des sportifs professionnels. Ça arrive dans l'athlétisme, ça arrive dans le football aussi. Comment on peut considérer ces gens-là? Ils vont arriver le jour où les compétitions vont reprendre avec un déficit physique, puisqu'ils n'ont pas pu s'entraîner. Est-ce que ces gens-là, on ne peut pas les autoriser? Est-ce qu'il faut des dérogations au cas par cas? Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux?
C'est vrai que c'est une inéquité. Maintenant, c'est les fédérations qui décident du niveau de compétition qui peut continuer à s'entraîner et à reprendre sous la forme de confrontation. Et c'est vrai que dans certaines équipes de niveau numéro 2, j'allais dire, il y a des mélanges dans les équipes des gens qui sont avec un contrat, des gens qui sont amateurs. Nous, ce qu'on préconise, c'est que quand c'est l'activité principale, eh bien, qu'ils soient autorisés à s'entraîner, à faire de la compétition, quand c'est leur activité principale. Maintenant, comme vous le dites, si c'est leur passion et qu'ils y consacrent beaucoup de temps, mais qu'à côté, ils ont un travail, eh bien, voilà, la priorité est donnée au fait que cette personne va déjà être au contact de beaucoup de personnes dans son travail habituel. Et donc, venir en plus dans un club, c'est risqué.
Donc, on l'autorise. On l'autorise à aller au travail, mais lorsqu'il veut se faire plaisir et se défouler,
il peut aller une heure autour de chez soi, sortir pour s'entraîner, pour courir, s'entraîner chez soi, mais pas au contact des autres, parce que c'est le fait. Ce qu'on veut tous, c'est limiter le risque de propagation du virus. Les sportifs professionnels, ceux qui ont contrat, c'est leur métier. C'est pour ça qu'on les autorise à faire.
On parle de contrat, donc en fait, si je comprends bien, à 3 ans des Jeux Olympiques, un sportif olympique qui n'est pas professionnel, hein, pas tous, loin de là, puisqu'on constate que 2 sportifs sur 3 en équipe de France sont des gens qui sont dans des très grandes précarités, donc beaucoup ont des métiers, donc ceux-là, finalement, qui n'ont pas de contrat, qui ne sont pas professionnels, et même certains qui sont en accession à l'équipe de France, mais qui sont au niveau juste B, qui ont fait des finales de championnat de France, qui se qualifient au championnat de France, qui visent des grandes compétitions, bah ceux-là, finalement, sont dans cette zone grise où ils ont peut-être 19 ans et non pas 18, donc ce ne sont pas des enfants, ils ne sont pas des professionnels, ce sont des gens qui s'entraînent tous les jours, mais ils n'auront pas accès au stade et les championnats de France seront de niveau catastrophique. Donc bien des disciplines, dont la natation, dont l'athlétisme, le judo, tous les sports finalement olympiques.
Alors Maryse, ces personnes, ces athlètes qui sont aux portes de l'équipe de France dont vous parlez, ils sont sur des listes, soit espoir, soit PPF de la fédération
mais
en
non,
question.
Mais non, les listes espoir, il faut déjà être en équipe de France.
Oui, mais les PPF...
Donc, non.
Les PPF, les listes PPF, celles-là, elles y sont. Et celles-ci sont aussi autorisées à pratiquer. Il n'y a pas besoin d'avoir forcément un contrat de travail. Il faut être sur une liste des fédérations. Et c'est une liste au sens large. 20 000 sportifs aujourd'hui, on a évalué à 20 000 sportifs, c'est les personnes autorisées à accéder aux équipements. Donc c'est large.
Alors, pour mettre tout le monde d'accord, je rappelle qu'on est toujours avec Roxana Maracineanu, la ministre en charge des sports dans le RMC Sport Show ce soir, avec Maryse Evangépé, avec Oussem Loussaïef. En fait, tout ça sera réglé, madame la ministre, quand les clubs amateurs, quand tous les clubs pourront rouvrir. On a parlé des mineurs tout à l'heure. Demain, si, alors moi, mauvais exemple, oui, heureusement, je peux faire sport. Si Oussem veut retourner dans son club de foot,
pas un mauvais exemple.
Oussem qui est majeur, hein, même si parfois ça ne se voit pas.
C'est vrai.
Quand est-ce qu'il pourra le faire et sous quelles conditions?
Alors, on espère que ça ira mieux au mois de janvier, au mois de février, au pire. Moi, j'incite tout le monde à une rigueur aujourd'hui. Et plus on fera tous des efforts ensemble et plus on se limitera à ce qu'on est autorisé à faire, chacun à notre niveau. Eh bien, plus vite, ça ira mieux. C'est ça qu'il faut se dire.
Mais là où vous dites décembre pour les mineurs, vous ne pouvez pas vous engager, vous avancer sur
une date
pour les majeurs.
Ni pour la reprise amateur, ni pour la reprise des spectateurs dans les stades, puisqu'on sait que maintenant, tous les événements ont lieu à huis clos. Et les amoureux aussi de sport ont maintenant envie de retourner, je le sais, dans les tribunes pour encourager aussi... Leurs équipes préférées.
Avant de laisser la main à Thibaut pour enchaîner et suivre avec le sport professionnel, j'aimerais vous parler du passeport. Et la question la plus importante de cette interview.
Il m'en parle depuis le début de la semaine.
Qui a trouvé ce jeu de mots, passeport? je veux savoir qui a trouvé le jeu de mots passeport, d'où ça vient. Alors, j'ai un peu réfléchi. Je pense qu'il y a un jeu de mots avec le passeport pour voyager.
Ouais, peut-être.
Mais déjà, qui a choisi ce jeu de mots? Je veux des noms.
Le père Foura.
Et ensuite, à quoi il correspond? Parce qu'on a essayé de comprendre avec Thibaut. Alors, on sait qu'il y a l'aide aussi qui existe déjà depuis quelques années avec la CAF.
Qui s'appelle le passeport aussi.
Exactement. Qu'est-ce qu'elle va changer, cette nouvelle aide?
Ouais, c'est pas un mot nouveau, hein. Il y a le passe culture sur lequel on travaille.
Oui, mais le passeport, franchement, voilà. Ça, j'avais pas
parce
pensé.
Parce qu'il y a passeport.
Le passe-partout, le samedi soir, l'été aussi. On
c'est vrai. Autre chose.
Le passeport va servir à accompagner la demande de sport auprès des familles qui en auront le plus besoin, soit parce que elles n'ont plus les moyens d'inscrire leurs enfants ou eux-mêmes dans un club sportif, ou aussi parce que, pour X ou Y raison, elles auront perdu le chemin des associations, peut-être par peur aussi, par crainte, parce que c'est vrai que certaines personnes sont déjà pas revenues là au mois de septembre. Ouais. On a vu une baisse d'à peu près 20% des inscriptions dans les associations sportives, dans certains sports particulièrement, ouais, notamment de ceux de contact, ceux qu'on fait en collectif. Donc il y a aussi une réticence parfois de la part des Français à retourner dans un club. Et c'est pourquoi le président de la République d'ailleurs a annoncé une grande campagne de communication dès la reprise, janvier, février. Et c'est celle aussi que nous avions fait avec tout le mouvement sportif au mois de septembre et les salles de sport privées aussi, ouais, du monde commercial, pour pouvoir réassurer. On a vraiment besoin de se passer ce message de réassurance et on a décidé de mettre 100 millions d'euros aussi, ouais, nous, État, en abondement à ce qui existe déjà. Parce que beaucoup de mairies, de régions, de départements, de fédérations aussi ont cette aide à la prise de licence. Et voilà, nous, on veut participer aussi à hauteur de 100 millions d'euros, qui n'est pas rien. Et ça, c'est de l'argent qui ira dans la trésorerie des associations sportives de territoire.
Alors, on va avancer un petit peu parce qu'on a encore beaucoup de choses à vous demander sur le sport professionnel. On va commencer par ça parce que vous en aviez parlé il y a quelques instants, le retour des spectateurs dans les stades, la fameuse jauge. Quand on peut espérer retourner voir un match de foot, un match de rugby et surtout comment ce sera calculé, à combien on pourra être au Stade de France, au Parc des Princes ou dans un stade qui fait 10 000 places?
Bon, déjà, c'est une grande réussite pour nous aujourd'hui. On en est content qu'il puisse y avoir du spectacle sportif à la télé.
Je vous cache pas, ici à RMC, on est assez content.
Oui. J'allais vous le dire, pas seulement pour les sportifs, parce qu'évidemment, en tant que sportif de haut niveau, je réalise tout à fait la difficulté dans laquelle ils se trouvaient au mois de mars, à pas pouvoir s'entraîner, à pas pouvoir se confronter, alors que c'était leur métier et c'est toujours leur métier qui se prépare souvent pour des jeux ou des grandes échéances. Mais derrière, c'était aussi important pour tout un écosystème et notamment médiatique. Sans parler évidemment des fans et puis de tous les Français qui vivent au travers de ces émotions que le sport procure. Donc ça déjà, c'est une belle victoire et on en est très heureux. Et puis derrière, c'est vrai, la dernière fois j'étais au match des filles PSG-OL et pour la première fois, il y a eu des chants de supporters.
C'était pas une cassette ?
Si, mais franchement, ça c'est trop de bien. Parce que j'en ai fait un certain nombre de matchs sans bruit du tout dans le stade. À entendre, effectivement, on était tous attirés parce que les joueurs et les joueuses se disaient sur le terrain. C'était assez étrange. Mais là, ça faisait trop de bien d'entendre des chants. Et moi, j'ai envie qu'ils reviennent en vrai.
J'allais dire, quand est-ce qu'on enlève la cassette, comme dit Oussem, il est en 2001.
C'est vrai, on est quoi, c'est pas maintenant.
Voilà, les vrais chants de supporters au Sénat Maracineanu, c'est pour quand?
Bah, on espère dès que possible, évidemment, quand ça ira mieux.
Je ne vais pas me suffire, madame la ministre.
On verra. Alors, la jauge, la jauge aujourd'hui, vous avez vu, il y a une belle annonce aussi qui a été faite par le président lui-même de dire quand ça repartira avec ce qu'on appelle une jauge relative à la grandeur, à la surface du stade.
Donc ça, c'est acté, vous travaillez encore dessus. Est-ce que vous pouvez nous dire, justement,
c'est acté si, que c'est quand ça va reprendre, on va reprendre comme ça.
Ouais. Okay.
Voilà, donc on va reprendre avec 10, 20, 30, 50, selon les territoires.
Combien
42,5 à 12h30, mardi 22.
On notera.
Évidemment,
on peut l'annoncer.
On peut pas le dire. On peut pas le dire puisque c'est les données du ministère de la Santé qui dirige tout ça, en fait.
Je vois que vous ne voulez pas donner de date non plus. Je vais vous donner des fourchettes. Est-ce que c'est possible que ce soit entre fin janvier ou début février? Ça semble correct?
Bah écoutez, quand on aura la chance de voir moins d'images dramatiques en provenant des hôpitaux, d'entendre des reportages comme encore un ce matin qui relatait la vie dans ces services de réanimation, et bien à ce moment-là, sans doute, ça pourra reprendre plus facilement.
La ministre en charge des sports, Roxana Maracineanu, est à nous, l'invitée ce soir du RMC Sport Show avec Marie-Zévan Gépé, toujours avec Oussem Loussaïef. On s'intéresse au sport professionnel qui continue. La jauge, le retour des spectateurs, on l'espère assez vite. On en a marre des cassettes. Oussem, c'est vrai que ce mot, je l'avais complètement.
Je ne savais plus quoi dire. CD, même le CD, c'est démodé.
Les clubs professionnels, madame la ministre, 110 millions d'euros pour aider les clubs, les organisateurs d'événements sur les pertes de billetterie. Concrètement, je pense aux présidents de clubs nombreux qui nous écoutent. Comment ça va être calculé? Combien va toucher chaque club de ces 110 millions d'euros?
Comme on était en attente de la décision de la Communauté européenne à nous autoriser, la Commission européenne à nous autoriser à distribuer cet argent, eh bien on a eu le temps de travailler sur ce processus avec les clubs en question.
Donc vous
n'avez pas
fait
tout seul. Donc on va prendre en compte leur taux de dépendance à la billetterie. Ça veut dire que les clubs qui ont des droits télé qui rentrent, forcément, ils auront moins d'argent de la part de l'État pour compenser. Et puis derrière, de l'impact que ce taux de dépendance a sur leur perte de chiffre d'affaires. Donc c'est important aussi de voir, est-ce qu'il y en a qui arrivent à s'en sortir parce qu'ils ont un grand soutien du territoire ou d'annonceurs privés qui sont encore, qui font encore partie de l'aventure. Et on va plutôt aider ceux que tout le monde a laissé tomber en priorité. Et surtout porter une attention particulière aux petits sports, basket, handball, volleyball, et puis aux sports féminins qui, on le sait, même en dehors de cette période de crise, a un modèle économique fragile. Donc maintenant, c'est eux qu'il faut soutenir le plus. Qui ont encore de l'argent dans les caisses.
Quand vous parlez de sports qui bénéficient de droits télé et qui ne sont pas abandonnés, vous parlez pas du football, rassurez-moi, parce qu'aujourd'hui on sait plus trop s'ils sont abandonnés, pas abandonnés. Je fais référence à Mediapro, on sait plus trop. Est-ce que vous en savez un peu plus sur la situation? Est-ce que vous les considérez, vous, dans ceux qui doivent bénéficier d'une enveloppe? Je parle du football notamment.
Bah écoutez, tant que le contrat aujourd'hui n'est pas officiellement annoncé comme caduque et que de toute façon le football, on le sait, a des droits télé en soi. Enfin voilà, il n'est pas envisageable qu'il n'y ait pas de droits télé derrière, soit une renégociation, une remise sur le marché des droits. Évidemment, il y aura encore des diffuseurs qui seront intéressés par ce sport, évidemment.
Est-ce que ça veut dire
c'est pas le cas pour les autres sports et notamment le sport féminin.
Le foot n'est pas concerné par ces 110 millions d'euros?
Il y aura certains clubs, si, bien sûr, qui recevront une compensation de la billetterie parmi les clubs de foot.
Si on additionne, Roxana Maracineanu, toutes les aides pour le sport, ça représente combien? Est-ce que vous avez un chiffre? Est-ce que c'est des centaines de millions d'euros, de milliards d'euros? C'est vrai que, par exemple, on a entendu pour la culture que ça dépassait le milliard.
Un chiffre bien plus lointain que celui du sport.
Pas si lointain que ça. Savez, en septembre, lorsqu'on a regardé à Bercy, pour prendre le monde sportif et associatif qui a bénéficié de toutes les mesures de ce qu'on appelle continuité économique de tous les secteurs, on arrivait à 3 milliards d'euros. Depuis septembre, il y en a eu d'autres, beaucoup d'autres. Donc plus encore, au moins 500 millions. Et puis, spécifiquement pour les aides au sport, que ce soit la relance ou l'urgence, on a nous déjà un budget en hausse de 20% qui avoisine les 800 millions d'euros, plus les 130 du plan de relance, plus là les 400 qui vient d'annoncer. Franchement, on ne peut vraiment pas dire que le monde du sport soit oublié.
Les salles de sport qui sont toujours fermées, j'ai vu passer cette semaine, c'était en Normandie, je crois, des coachs sportifs d'une salle de sport qui était toujours fermée. Se poser à nu en disant, le message c'était on se met nu, quitte à ce que le gouvernement nous foute à poil, on se met à nu nous-mêmes. En gros, c'est un appel à l'aide. Est-ce que vous avez des annonces pour ces salles de sport, ça concerne d'autres secteurs également. Quand est-ce qu'elles pourront rouvrir? Elles mettent en avant un protocole sanitaire qui est strict. Est-ce que vous avez des annonces pour elles?
Alors, il y avait trois mesures qu'elles poussaient beaucoup, sur lesquelles on a répondu positivement ces derniers temps, puisque Bercy a annoncé une possible prise en charge sous la forme d'un crédit d'impôt d'une partie du loyer. Et c'était le loyer pour ces salles qui était vraiment important d'alléger. Donc ça, c'est fait. Donc une partie de leur loyer pourra être défiscalisée pour leur bailleur. Et puis derrière, il y a aussi le fait que certaines fonctionnent par des holdings, c'est-à-dire que c'est une grosse entreprise avec d'autres petites entreprises et qu'elles ne bénéficiaient pas du fonds de solidarité plusieurs fois. Elles bénéficiaient pour la maison mère, mais pas pour toutes les autres salles de sport sur les territoires. Et là, on a réussi à avoir un arbitrage positif et qu'effectivement, toutes les petites entreprises, toutes les petites salles de sport puissent bénéficier du fonds de solidarité. C'est quand même 10 000 euros par mois.
Ça, quoi. C'est l'aspect financier, mais
donné par l'État.
Sur la réouverture, pas de date à leur proposer.
C'est une manière de les aider pour passer cette situation difficile, mais qui est la même pour tout le monde, hein, les restaurateurs, les hôteliers, les bars.
Au-delà de la difficulté
financière. Et ça va reprendre en même temps.
Madame la ministre, il y a aussi l'aspect psychologique. Certains ont besoin de ce moment de sport. Et je pense que vous le saviez, vous avez été une athlète de haut niveau. Et même en tant que passionné, vous-même, vous avez eu besoin à un moment de votre vie d'aller sortir du travail et de se retrouver. Je me fais porte-parole un peu de nombreux de Français qui se disent je fais travail, maison, travail. Et ce moment-là, on en a besoin, alors que ce soit dans une salle de sport ou ailleurs, d'ailleurs, où on peut pratiquer. Je pense notamment au complexe de football indoor, où on peut évoluer, malheureusement, qui sont fermés depuis un long moment. Ce moment-là, je parle vraiment du facteur psychologique. Au-delà des chiffres, comment on fait pour l'avoir? Est-ce qu'on peut pas? Et pourtant, il y a des restrictions sanitaires qui sont respectées. Moi, j'ai l'image et des discussions avec des patrons d'indoor qui me disent on fait tout ce qui est possible. Les vestiaires sont condamnés, on fait vraiment tout, on désinfecte dès qu'on peut. Est-ce qu'il n'y a pas un effort aussi à faire du côté de l'État pour leur permettre à eux d'ouvrir?
Oui, mais il ne faut pas tout confondre. Les gens peuvent pratiquer du sport aujourd'hui.
D'une certaine catégorie de personnes. Vous parlez de ceux qui ont l'autorisation. Moi, typiquement, j'ai pas l'autorisation.
Oui, mais vous pouvez prendre votre vélo et venir ici à RMC à vélo depuis chez vous pour faire le trajet à vélo, par exemple, ou en courant. Vous avez le droit de venir.
J'espère que t'habites pas 50 bornes avec l'autoroute.
Évry, ça va. Évry, Courcouronne.
J'habite pas si loin.
C'est sûr qu'on peut trouver toujours la personne qui ne pourra rien faire.
Exemple concret, Madame la Ministre.
Sortir et faire du sport aujourd'hui.
Avec les collègues, souvent, on se réunit. Avec les collègues, des gens que je croise ici, on se réunit pour jouer au football de temps en temps lorsqu'on ne pouvait.
On précise, on se réunissait.
Aujourd'hui, on se réunissait. Est-ce que vous comprenez pourquoi aujourd'hui on ne peut pas se réunir? Parce que quand on fait du sport, on fait tomber le masque. On ne peut pas faire du foot en groupe à 5 ou à 6 avec un masque. Donc à partir du moment...
Ça, je vous l'accorde.
Donc c'est juste ça. Hein. C'est que comme on enlève le masque en faisant du sport, aujourd'hui on doit limiter les rencontres entre les gens. C'est pour ça que maintenant on est tous contraints à mettre le masque au travail et dans les bureaux. Il n'y a que, quand on est journaliste et qu'on prend la parole, parce que c'est vous voyez, comme en sport, c'est tellement fatigant et difficile de pouvoir parler avec un masque, qu'on le fait tomber. Donc dans ces endroits-là, où il y a, malgré tous les protocoles qu'on veut imaginer et qu'on travaille aujourd'hui avec ces entités, aujourd'hui que le risque sanitaire est très grand, il faut que nous, on prenne les précautions très importantes.
Merci beaucoup Roxana Maracineanu d'avoir
été Madame la Ministre.
L'invité du RMC Sport Show ce soir. Passez une bonne soirée et à très vite.
Merci à vous.
Oussem, Maryse, vous restez là parce que le RMC Sport Show continue. On est en direct jusqu'à 20h, vous le savez, comme toutes les semaines. Et on est aussi en direct ce soir parce que c'est rare le dimanche à cette heure-là. Mais on a du direct avec Eric Salio. Du tennis, Eric, la finale du Masters, le tournoi des maîtres, Dominic Thiem contre Daniil Medvedev.
Oui, baissé de rideau de cette saison 2020 si particulière. Et puis ceci, c'est la DER à l'O2 Arena de Londres. On s'attend à une belle finale entre la next-gen, hein, Daniil Medvedev et Dominic Thiem, même si Dominic Thiem a 27 ans,
comme un âge. C'est une génération intermédiaire.
Ah oui, déjà. Voilà.
Oui,
on a l'impression que c'est le petit jeune, non?
Non, pas du tout. Ouais. C'est parti depuis 20 minutes et il y a deux jeux, hein, pour le plus français des Russes. Daniil Medvedev.
Thiem, 27 ans, il a connu les cassettes, peut-être, comme toi aussi.
Peut-être. Et les CD aussi. Un petit résultat de football, Thibaut, la 9e journée de première ligue entre Leeds et Arsenal. Le match s'est fini il y a quelques minutes. 0-0. On s'attendait à plein de buts entre Bielsa et Arteta et pourtant, pas de but du tout.
19h32, le RMC Sport Show continue avec Maryse Evangépé, avec Oussem Loussaïef, avec vous sur le hashtag RMC Live. Je vois vos nombreux messages. Évidemment, on parle rugby. Les Bleus ont gagné en Écosse, 22-15. Le débrief avec Jeff Paturo.
RMC Sport Show.
Oussem Loussaïef, Thibaut Jean-Grande.
Et Maryse Evangépé, comme tous les dimanches soirs, le RMC Sport Show, votre rendez-vous du week-end, de fin de week-end, pour tout savoir ce qui s'est passé dans l'actualité sportive. À suivre, Oussem.
Dans moins de 10 minutes, la judoka française la plus titrée sera avec nous, Clarisse Agbe.
Benninou reviendra d'ailleurs sur son tout récent titre de championne d'Europe.
Si c'est une bonne interview, je te la mettrai sur cassette pour qu'il puisse la garder.
Et comme ça, je m'en remettrai pas.
Je m'en remettrai, je te jure. 19h34.
Excuse-moi, la jeunesse.
La France a battu l'Écosse cet après-midi. Les Bleus ont pris leur revanche.
Touché, jeu! Du coup, qui relève la tirière pour Vincent Rantès, c'est une super combinaison! Ça peut faire un 2 contre 1 pour Wakatawa, il a donné un peu tôt, mais est-ce que Wakatawa va y aller?
Oui, essaye!
Le dégagement des Écossais de Stuart Hogg, il me semble. Ça sort, ça va pas en touche. Quelle erreur de l'expérimenté Stuart Hogg. Pourtant, le capitaine écossais, eh bien, il rend un fier service à l'équipe de France. Victoire de l'équipe de France ici en Écosse, 22 à 15, troisième victoire consécutive.
Bonsoir Jean-François Patureau.
Bonsoir.
Salut Jeff.
Journaliste rugby adoré dans le RMC Sport Show. Bon, on les aime tous quand même.
Je les aime tous, surtout quand ça gagne.
Surtout. Justement, raconte-nous ce match. Bon, les Bleus ont gagné, 22-15, c'était fermé, c'était... On va pas se mentir, c'était pas très passionnant.
C'est vrai que c'était un peu dur de s'enflammer à distance, qu'il faut le rappeler. On n'avait pas de dérogation, la presse française n'avait pas de dérogation à part les ayants droit pour cette rencontre. C'était une atmosphère assez fraîche, c'est ce que disait Raphaël Ibáñez hier, et c'était vrai que c'était le cas encore aujourd'hui. Une petite pluie fine, du froid, aucun spectateur, c'est pas d'ambiance à Murrayfield, et le match a mis longtemps, très longtemps à se décanter. On s'est pas régalé comme on s'est régalé parfois c'est avec l'équipe de France ces derniers mois, mais le résultat est là, et c'est la première victoire de l'équipe de France à Murrayfield depuis 2014.
Ouais,
ça fait du bien déjà.
Ah oui, quand même.
Et puis il y a une histoire de revanche aussi.
Au mois de mars, on avait perdu là-bas.
C'était la seule défaite, et c'est toujours la seule défaite de l'ère Fabien Galthié, avec une défaite à Murrayfield. Justement, la dernière fois qu'on était allé, l'équipe de France était allée là-bas, il y avait une énorme ambiance.
On avait bien démarré.
Tu parles, ouais. Camicha s'était pété à l'échauffement. Romain Tamac s'était pris une commotion cérébrale.
Avant le rouge, on est pas mal.
Oui, carton jaune pour Cross et rouge pour Aouas.
Mais après ça, franchement, avant le rouge, on est pas mal.
Si, je me souviens, il a raison, Oussem, je le défends pas parce que c'est mon copain, mais sur les hymnes, on avait très bien chanté.
Non, dans le jeu au score, c'était pas, ça allait, mais c'était une catastrophe ce match, malheureusement. Aujourd'hui, c'est une victoire solide, à défaut d'être géniale. C'est une victoire aboutie. C'est ce que disait aujourd'hui le troisième ligne et capitaine de cette équipe de France, Charles Olivon, qu'on écoute.
Le signe de progrès, mais quelque part, oui, vu qu'on a une victoire, alors qu'on avait enchaîné deux défaites ici. Aujourd'hui, on a fait un match consistant. Il y avait vraiment de l'adversité en face et on a tenu bon. Il n'y a pas un mec qui a lâché et ça fait vraiment plaisir d'avoir une prestation aboutie.
C'est un son en visioconférence.
Oui, vous n'étiez pas sur place.
Je n'ai pas enregistré ça avec un vieux magnétoscope tout pourri.
Oui, parce qu'en ce moment, dans les cassettes, on est. Non,
je sais, c'est pour
les
ça.
Les temps sont durs, mais
on est totalement dedans.
Maryse, tu as regardé ce match. Est-ce que tu as regardé jusqu'au bout ou tu as un peu zappé à un moment donné, peut-être?
Oh non, comme je ne zappe pas.
Non, tu zappes pas.
Ouais. Pas l'équipe de France.
Non, mais c'est vrai que c'était. Et tu sais, on s'habitue vite, Maryse, je trouve. Mais
non. Moi, je ne m'habitue pas. J'ai envie de voir un match en vrai, d'aller dans le stade et tout. Donc, non, je regarde ce qui passe, évidemment. Et puis, en plus, on est quand même sur une continuité de réussite des Bleus, donc même si certains matchs n'ont pas tout à fait la même saveur, on était sur une équipe bis, un peu de l'équipe de France, avec certains qui avaient besoin de se montrer, d'autres qui étaient au repos, donc on s'attendait à ce que ça soit un peu moins flamboyant que les derniers matchs. Ça a été le cas, certains d'ailleurs n'ont pas été flamboyants du tout, même pas clignotants, hein, et c'est pas très très bon pour eux. Je pense à Teddy Thomas qui me déçoit un petit peu, enfin qui a pas su être complètement dans le match, mais voilà, c'était pas non plus un grand match. Je pense qu'ils avaient conscience que c'était complètement à leur portée et qu'ils ne se sont pas autant envoyés, même à un garçon comme Dupont, qui d'habitude est au four et au moulin. Là, il était juste au four. Voilà.
D'ailleurs, Jeff, pour rebondir sur ce que dit Maryse, dans un match comme celui-ci où l'essentiel a été fait, on a gagné, on perdure, qui a pu marquer des points sur les joueurs utilisés, ou au contraire, est-ce qu'il y en a vraiment qui sont passés à côté de leur match?
Maryse le disait, Teddy Thomas n'a pas été très en vue, mais c'est pas seulement de son fait, c'est qu'il a passé son temps à défendre l'ailier du Racing 92 et de cette équipe de France. Il a touché que deux ballons dans la rencontre, deux ballons en deuxième mi-temps. Pour le reste, il a dû défendre. C'est vrai qu'on attend de mieux de lui, parce que lorsqu'il a le ballon, il est capable de faire des différences, et un vrai factoriste dans cette équipe de France. Parmi les joueurs qui ont été un peu en retrait, on peut citer aussi malheureusement encore pour lui, c'est Mathieu Jalibert qui était un peu attendu au tournant.
Ah oui, on en a beaucoup parlé après le match. C'était quand même craché, il faut le dire, au mois de mars face à ces mêmes Écossais. C'était un peu la revanche pour lui personnellement. Et ouais,
oui, c'était seulement sa deuxième titularisation en équipe de France. La première, c'était en 2018 contre l'Irlande, il s'était pété le genou. Aujourd'hui, il n'est pas blessé, mais c'est vrai qu'on attendait un peu plus de lui. Il était encore un peu en retrait, il n'a pas trouvé une touche, il a perdu un ballon, il y a un choix qui n'est pas terrible non plus. Par contre, en revanche, il a passé un drop, ce qui est rare en équipe de France, ce qui est plutôt intéressant, qu'on peut voir qu'il y a une palette un peu plus élargie. Et il aura sans doute du temps de jeu encore la semaine prochaine contre l'Italie, puisque Romain Tamac ne sera pas dans le groupe la semaine prochaine. Juste, c'est vrai que, oui, pas encore opérationnel. Et c'est vrai qu'on attend encore mieux du joueur de l'UBB. En revanche, il y a des joueurs qui ont brillé, heureusement, évidemment, et souvent, comme c'est le cas à chaque fois quasiment, c'est Virimi Vakatawa, le seul essai français pour Virimi Vakatawa, qui est vraiment une des pièces angulaires du système de Fabien Galthié, le centre du Racing 92. Grégory Aldrit aussi, qui commence à se faire un nom, qui a été un joueur étincelant lors du tournoi Destination, qui était encore très intéressant, le joueur de La Rochelle en troisième ligne. Bernard Leroux, 21 plaquages. Un plaquage de Bernard Leroux, ça fait mal. Oussem, tu serais plus ici.
Ouais, Jean-Baptiste
Gros, qui n'a que 21 ans en première ligne. Le pilier du RCT aussi a livré une prestation intéressante. Et enfin, Thomas Ramos, à l'arrière, ça a été bien pendant 70 minutes. La fin était un peu plus laborieuse.
Ouais, il a raté quelques coups de pied. Il est 19h40, vous êtes dans le RMC Sport Show. On débriefe cette victoire du 15 de France cet après-midi face à l'Écosse. La revanche, la vengeance de cette défaite du mois de mars, 22-15. La suite du programme pour le 15 de France, Jeff.
Demain, beaucoup de monde à Marcoussis, parce que les vainqueurs de l'Écosse seront à Marcoussis pendant quelques heures, et ceux qui sont sélectionnés à Marcoussis seront, pour l'Italie, seront aussi à Marcoussis. Tout le monde va
on
se rassembler.
Un groupe de combien de joueurs à peu près?
Une soixantaine. 60. Ouais. Et pour justement passer le témoin, passer le relais, le flambeau.
Il y avait pas mieux à faire que comme organisation en termes de virus,
de cluster.
Par exemple. Non, c'est vrai. Étonnant.
Après, les joueurs sont testés. Normalement, tous les joueurs sont testés et qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Les joueurs en top 14 étaient régulièrement testés. Ceux à Marcoussis, évidemment aussi. Il y a un joueur qui ne sera pas là, c'est Julien Delbouis, le centre du Stade français, qui est blessé, qui sera remplacé par Jonathan Danti, qui n'a plus porté le maillot de l'équipe de France depuis 2016.
Dans cette Autumn Cup, on est quand même pas mal. On a battu très facilement les Fidji 28-0.
Quel carton.
Là, on s'impose. L'Italie, c'est jouable normalement, Jeff.
C'est jouable. Après, faudra vraiment surveiller la prestation de cette équipe de France, car ce ne sera pas la grande équipe de France. Il y aura 16 joueurs à zéro sélection qui seront réunis pour ce match. Et ensuite, si tout va bien, ce sera une finale contre l'Angleterre qu'on va écraser avec notre équipe.
Bien évidemment.
France-Italie, samedi, dimanche prochain.
Samedi
prochain. Merci beaucoup, Jeff Paturon.
Merci,
à très vite dans le RMC Sport Show. 19h42, un point sur notre direct qui va nous passionner ce soir. Le dernier gros match de tennis de l'année, la finale du Masters, Eric Salio.
Ouais, et un premier break réussi par Dominique Thiem. On ne l'avait pas vu venir parce que Medvedev avait bien débuté cette finale et surtout, le Russe, il a mené 40-0. C'est ballot de perdre son service quand on mène 40-0. Donc 3-2 Thiem qui va servir.
Merci Eric. Dans quelques instants, Clarisse Agbenienou, l'invité du RMC Sport Show.
Très récente championne d'Europe. Ouais. C'est la judoka la plus titrée du judo français.
Exactement. Et puis le reportage évidemment du RMC Sport Show comme tous les dimanches. À tout de suite avec Maryse jusqu'à
20h. RMC Sport Show.
Oussem Moussaïef, Thibaut Jean-Grande.
Excellent dimanche à l'écoute d'RMC, le RMC Sport Show avec Maryse et Vangépé comme tous les dimanches soirs. Le rendez-vous sport du dimanche soir à la radio. Une heure pour revenir sur la grosse actu du week-end et la victoire de Clarisse Agbenienou qui sera avec nous, la toute fraîche quintuple championne d'Europe. Mais place tout de suite au reportage du RMC Sport Show.
RMC Sport.
Reportage.
On voyage où c'est ce soir?
Eh oui, on va direction Budapest, c'est ça hein.
Retrouver Julien Richard. Salut Julien.
Salut les gars,
salut
bonsoir
Julien.
À toutes et à tous.
Tu es notre envoyé spécial dans la capitale hongroise. Tu suis l'ISL, cette nouvelle formule pour la natation, cette compétition par équipe, ce show par équipe. Et Julien, Covid oblige, les organisateurs ont réuni plus de 300 nageurs dans une bulle sanitaire. Tu vas nous raconter tout ça dans un instant, parce qu'en plus, ça s'est bien passé. Mais avant d'écouter ton reportage, Julien, un point sur le sportif. On en est où là, l'ISL?
Oui, parce que la finale est sur le point de se terminer. On est sur ce qu'on appelle l'épreuve des skins. C'est marrant que vous arriviez à ce moment-là parce que c'est vraiment l'illustration des nouveautés qu'apporte cette ISL, cette nouvelle ligue professionnelle. Les skins, c'est quoi? C'est 8 nageurs au départ sur un 50 mètres et les 4 premiers se qualifient pour la demi-finale. Et les derrière, quand les quatre s'affrontent, eh bien, les deux premiers se qualifient pour un duel en finale. Sauf qu'à chaque fois, entre chaque 50, il y a 3 minutes. Ça veut dire que tu termines complètement cramoisi, les muscles pleins d'acide lactique. C'est hyper dur, évidemment, et ça arrive en toute fin de finale. Donc voilà, c'est assez indécis. Et puis c'est très spectaculaire. Et d'ailleurs, on trouvera dans quelques instants.
Julien, on a les images devant nous. C'est incroyable. C'est une soirée, c'est un show, c'est on a l'impression d'Interville, mais version natation. Quoi. C'est de la lumière partout.
Alors oui, effectivement, c'est un décor basé sur les super-héros. Alors c'est un peu futuriste. Certains diront que c'est kitsch, pourquoi pas.
Non, moi,
d'autres
bien.
Diront que c'est très jeu vidéo. Voilà, ouais, ça reprend l'esprit et l'univers des jeux vidéo. C'est pour conquérir un nouveau public ouais. jeune que l'on voit tout ça.
Et d'ailleurs, oui. C'est aujourd'hui la journée mondiale du jeu vidéo. Voilà, je tenais à le finir pour tous ceux qui apprécient un petit peu la manette.
Julien, donc on le disait, tour de force donc pour l'ISL qui a réussi quand même à regrouper dans ses conditions sanitaires, 320 nageurs venus du monde entier.
D'entendre le reportage, juste un dernier point. Justement, c'est une compétition par équipe et la Croate n'est pas totalement terminée, mais ce sont les Cali Condors qui vont s'imposer. Il n'y a plus de suspense. Pourquoi ? Parce qu'il y a un mec qui a tout tué. Le suspense, il a poignardé la finale. C'est Caleb Dressel. Il a battu 3 records du monde, dont un aujourd'hui sur le 100 m4 nage. Il n'a pas battu celui du 100 m à Maury Levaux, qui est dans les tribunes, pas très loin de moi. Je l'ai vu, il a soufflé très fort parce que c'est son record du monde. Il n'est pas tombé. Manodou a terminé deuxième de cette course à 1 seconde de Dressel. Pas de surprise. Comme hier sur le 50 mètres, il a pas existé face à Dressel qui est vraiment monstrueux et c'est l'homme de cette finale.
Et qui nous inquiète pour les JO l'année prochaine. Julien, raconte-nous.
Ce sera une autre histoire.
Comment, on l'espère, comment 320 nageurs du monde entier ont pu se réunir et que tout se passe bien?
C'est vrai qu'on réunit en fait les meilleurs athlètes d'un sport au même endroit pendant 6 semaines. Ces nageurs qui ont multiplié les compétitions. Il y a eu 13 matchs, c'est comme ça qu'on appelle les affrontements entre équipes au total. Et pour y arriver, ils ont mis en place une bulle sanitaire drastique. Il y avait 3 hôtels entièrement privatisés. Le tout dans une piscine ici à la Duna Arena de Budapest qui est majestueuse. Je vous emmène justement dans cette bulle sanitaire et vous allez comprendre.
Dernier test.
C'était ce matin le 11e test PCR pour Amaury Levaux, un test à la hongroise.
Ah,
un test tous les 5 jours et une vie rythmée par ce protocole sanitaire.
Can I have some chicken,
direction la cantine avec Marie Wattel, la double championne d'Europe, qui nage ici pour les London Wars.
On doit manger seul sur une table et au final on arrive quand même généralement à discuter avec les gens. Donc là je vais me mettre près de mon groupe. Hi guys. Voilà, et là je peux quand même discuter avec les autres, donc ça va.
Yeah. Une dizaine de Covid marshals sont présents pour faire respecter les règles, sanctions financières en cas d'écart, des contrôles jusqu'à la piscine si tu as 10 minutes à pied de l'hôtel.
Hop, check-up pour rentrer, 35,8, j'ai pas de fièvre. En gros, le protocole est très clair, les équipes sont séparées, on est 4 équipes, chaque équipe a sa piscine.
Dans la chambre d'appel, ce dernier moment avant une course, eh bien chaque nageur est assis, séparé par une vitre en plexiglas.
Bon, le Covid, vous avez compris, s'il veut passer, il fasse, mais c'est juste pour montrer que le protocole est assez strict. On pose les masques, qui sont des masques jetables, dans les seaux, et on vient nous chercher pour lancer la compète.
6 semaines de compétition intense dans cette bulle sanitaire, donc plutôt bien vécue par les nageurs comme Marie Wattel.
C'était loin d'être anxiogène comme on pouvait s'y attendre.
Mais clairement, tout le monde commence un peu à trouver le temps long, à commencer par Florent Manodou.
Être à très haut niveau pendant 6 semaines, c'est compliqué. J'arrive un petit peu à bout de souffle et nerveusement, j'ai envie de recharger, j'ai envie de voir les copains, j'ai envie de rentrer chez moi. Comme la plupart des athlètes ici. Après, on relativise un peu plus en étant là, on peut faire notre job comme il faut.
As Manadou gets the win.
Alors cette ISL, cette ligue privée de natation a permis à certains de se révéler.
Look at Castadello.
Comme Beryl Gastaldello, elle nage pour les LA Current, une équipe américaine, et elle enchaîne les victoires depuis 6 semaines.
Pour moi, c'est le terrain de jeu parfait. Moi, j'adore parce que c'est un sport individuel, mais ici, c'est vraiment tout pour l'équipe puisqu'on marque des points pour l'équipe. J'aime beaucoup cette direction.
6 millions de prize money au total vont être distribués sur cette deuxième saison de l'ISL. Beryl Gastadello devrait empocher, alors c'est difficile d'estimer, mais aux alentours de 100 000 euros. Et c'est un immense changement pour celle qui vit et s'entraîne aux États-Unis.
C'est nouveau et mérité. C'est pas vraiment ce qui m'intéresse, mais c'est sûr que ça va faire une grosse différence. Pour moi, ça amène de la sérénité parce que moi, à un moment donné, j'ai failli devoir arrêter de nager, en fait, à peu près il y a 2 ans, parce que je gagnais pas ma vie du tout.
Beryl Gastadello.
Tout le monde sera bien content tout de même ce soir de sortir de cette bulle sanitaire. Une bulle qui aura tenu, puisqu'aucun cas de Covid n'aura été détecté. Et sur ces 6 mois.
A world record! Oh my goodness!
Le plus impressionnant, Julien, je crois que c'est les commentateurs américains. Vraiment,
ils sont énormes. Ils sont exceptionnels.
Et en plus, Gastaldello a brillé aujourd'hui, Julien. rapidement.
Oui, puisqu'elle a remporté deux victoires et battu le record de France du 100 mètres 4 nages qu'elle avait déjà battu la semaine dernière. Donc elle a encore des belles performances pour la Française.
Et des bonnes nouvelles. Merci beaucoup Julien Richard pour le reportage de la semaine. Passe une belle soirée.
Merci, Julien.
Et à très vite dans le RMC Sport Show. Il est 19h50, on est toujours avec Maryse jusqu'à 20h et la femme du week-end est notre invitée ce soir.
L'invité du RMC Sport Show.
Bon, elle a eu sa médaille d'or vendredi, mais c'était presque le week-end, ouais, vendredi, c'était dans l'après-midi, ça bascule. Cinquième titre européen pour la judoka française, la plus titrée de l'histoire. Bonsoir Clarisse Agbegnénou.
Bonsoir.
Merci beaucoup de passer par le RMC Sport Show ce soir. Félicitations pour ce cinquième titre européen. Alors, j'ai quand même une question, parce que pour beaucoup d'athlètes, un titre européen, c'est le summum d'une carrière.
C'est vrai.
Mais quand, comme vous, on a déjà quatre titres mondiaux, qu'on avait quatre titres européens, une médaille d'argent olympique, est-ce qu'on arrive quand même à être super contente avec un cinquième titre européen ?
En fait, c'est compliqué, c'est que là, c'est... Tout est bafoué par ce qui est en train de se passer avec le Covid, donc forcément c'est un goût qui est vraiment différent. C'est un goût, on se dit avec tout ce qui se passe, tout ce qu'on doit surmonter et faire pour cette compétition, c'est quand même un goût assez particulier où on peut être fier vraiment à la fin de cette journée en remportant ce cinquième titre.
Revenons là-dessus. Vous êtes plus à Prague, les championnats ont lieu à Prague, vous n'êtes plus à Prague. À Prague, vous êtes rentré à Paris, c'est ça?
C'est bien ça.
Et donc, vous n'avez pas pu célébrer, j'imagine, avec vos proches, avec les vôtres, ce fameux titre?
Là-bas, forcément, interdit. On doit rester dans nos chambres. On a interdiction d'aller dehors dans la rue, donc impossible de célébrer. Et dans l'hôtel, c'est avec les masques, à part pour aller manger. Mais on ne peut rien faire. Quand on est enfermé dans l'hôtel, on ne peut rien faire. Et à la fin, ils nous ont autorisé à aller manger dans un réfectoire parce qu'avant, ils nous envoyaient la nourriture dans les chambres. Donc, c'était très la semaine a été très compliquée. J'étais très contente de rentrer. Et là, ma famille, est venue me chercher, m'a accueilli, m'a dit, bon, quand même, on va faire un repas pour fêter ta médaille parce que c'est vrai que c'est compliqué quand même.
Donc, pour l'instant, le meilleur moment, c'est un repas dans un réfectoire à Prague, c'est ça?
Exactement. C'est les meilleurs moments. On se dit, on voit un peu du monde, un peu de loin. On ne sait pas trop si on doit se dire bonjour ou pas. On voit d'autres têtes et voilà, sinon après on retourne dans sa chambre et voilà, fin de la discussion quoi.
Ouais, alors...
Après, entre françaises, on a pu rester un peu dans les chambres des unes et des autres, mais voilà, c'est tout. Et après, on retourne dans sa chambre, donc de chambre à chambre, quoi, dans le même couloir, c'est super.
Justement, Clarisse Agbegnénou, vous nous amenez sur cette question. Ces championnats d'Europe, vous avez longuement hésité avant d'y aller. La crise sanitaire, évidemment, vous inquiétait. Le protocole sanitaire vous inquiétait un peu. Sachant que celui qui a été appliqué pour ces championnats d'Europe de Prague pourrait être appliqué à Tokyo l'été prochain pour les JO. Du coup, c'était comment? Est-ce que vous revenez rassuré? Est-ce que vous irez à Tokyo rassuré?
Je pense pour au moins le protocole sanitaire, on sera rassuré, mais je pense que psychologiquement et humainement, pas du tout. C'est pas ce qu'on a l'habitude de voir, de faire. Puis en plus, le judo, c'est un sport de contact. C'est un sport où on aime les gens, on s'aime, on se respecte. Et là, en plus de ça, ce que je n'ai pas du tout compris, c'est qu'on combat, on a tout fait, on s'est sué dessus, on a essayé de se faire tomber, tout. Et à la fin, on peut même pas se serrer la main pour se remercier. Enfin,
oui, c'est vrai que c'est...
Je trouve ça vraiment pas trop humain. Donc c'est le côté compliqué.
En même temps, quand on voit les 25 secondes que vous avez accordées à l'Autrichienne Kresakova, c'est vrai que c'est beaucoup d'amour. Hein. On voit beaucoup d'amour dans ces, dans ces 25 secondes.
Vous n'avez pas échangé grand-chose avec elle, même. Pas eu le temps, effectivement.
Non, mais ça compte pas, ça.
Clarisse Agbegnénou est l'invitée du RMC Sport Show ce soir. Clarisse, justement, dans cette période particulière, comment vous avez préparé ces championnats d'Europe? Comment vous êtes entraînée pendant cette période? On le rappelle, c'était la première compétition internationale depuis 9 mois et le tournoi de Paris que vous avez remporté. Et comment vous êtes entraînée au quotidien?
À vrai dire, on s'est entraînée je me suis entraînée comme j'ai pu, et puis j'ai vraiment allé sans pression et sans rien me poser. Enfin, je me suis rien dit. Depuis ces 9 mois, je me dis juste reste en forme. Donc je suis même pas affûtée, tout ça. Donc je me suis dit reste en forme. Il faut que je puisse tenir le combat, peu importe les minutes. Mais après, dans les combats ou quand je vais les revoir, tactiquement, techniquement. Ou au niveau des mains, je suis pas rapide. Ouais. Il y a beaucoup de choses à travailler. Pour le coup, ça se voit que je suis pas affûtée, mais que je suis juste. J'ai gardé la forme, quoi.
Vous rendez compte ce que vous dites si vos adversaires nous écoutent ce soir? Ils disent on a pris une tannée contre Clarisse Agbegnénou.
Qui était à 20%. Elle était à 20%. Clarisse, je me permets de rebondir sur les femmes. Vous en avez parlé tout à l'heure. Vous avez dit que vous vous retrouviez avec les autres femmes. Et franchement, on vous doit beaucoup sur ces championnats d'Europe.
Presque
7 des 8 médailles ont été apportées par des femmes. Est-ce que c'est un nouveau relan pour le judo féminin?
Je pense que c'est un nouveau relan. Je pense qu'on montre depuis un certain moment, qu'on montre de tout. En fait, on montre que la culture judo est faite pour tous, faite pour les femmes. Qu'on montre qu'on a une cohésion de groupe. On montre plein de choses hormis juste se bagarrer. En fait, on est une équipe, on est une famille. Et pendant ces périodes, ça a vraiment été difficile pour nous et on s'est tous un peu soutenus. Et finalement, je pense que ça ressort là où ce soutien, on en a besoin et qu'on est une équipe, en tout cas l'équipe de féminine, on est une équipe de ouf et nous, on était prêtes pour les Jeux. Quoi.
Et ben voilà, c'est la transition toute faite. Passe décisive, comme on dit dans le sport collectif. La projection des Jeux Olympiques, c'est le seul titre qui vous manque, Clarisse. Vous avez été médaillée d'argent en 2016, on le rappelle. Bah, franchement, là, si vous passez de 20 à 40% de vos capacités, c'est bon, normalement, ça devrait le faire.
Bah, franchement, je pense que j'ai pas trop me foulé alors. C'est pas vrai, non, j'ai beaucoup de choses à me préparer. Puis je pense surtout mentalement parce que ce qu'on a vécu là à Prague, c'était assez difficile. Je suis épuisée mentalement et c'est même pas plus épuisée de la compétition, mais de toute l'ambiance qu'il y a autour qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Des fois, on était contente d'aller faire notre ronde dehors. Enfin, c'était juste la cour de l'hôtel. Enfin, c'est grave quand même. Donc je pense que mentalement, en fait, il y a un travail psychologique à faire. En tout cas, pour aller au jeu, hormis physique, et qui va être très important.
Clarisse Agbeninou, j'ai une dernière question à vous poser. C'est, vous savez, c'est la question un peu chiante du journaliste.
Et ouais, c'est toujours pour lui.
Désolé, mais l'actu judo fait la une aussi aujourd'hui, puisque votre président a changé, le président de la Fédération française de judo. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est tombé en fin d'après-midi.
Oui, il vient de l'apprendre.
Jean-Luc Rouget, qui était en poste depuis 2005, a été battu. C'est donc Stéphane Nomis qui est élu. Est-ce que vous avez une réaction à faire? Est-ce que ça va changer quelque chose pour vous, Clarisse?
Écoutez, non. Après, je pense que, on peut rien faire. Moi, en tant qu'athlète, je vais continuer à aller dans mes objectifs, peu importe qui sera là, parce que je veux avoir cette médaille d'or olympique, donc je ferai tout pour l'avoir, peu importe.
Et c'est tout ce qu'on vous souhaite, en tout cas.
Ouais. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci Clarisse Agbeninou d'avoir été dans le RMC Sport Show ce soir. Bravo encore quand même, parce que nous, on était peut-être plus contents que vous. Voilà. Mais bravo pour ce cinquième titre.
Si vous ne l'avez pas fêté, nous l'avons fait.
Merci d'avoir fêté pour moi. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Clarisse, à très vite. Au revoir.
À très vite, au revoir.
Un mot de tennis avant de terminer cette émission. Eric Salio, est-ce que Tim est en route vers la première manche de la finale du Masters?
Oui, il maintient son avance. 5-3 pour l'Autrichien. Medvedev est au service. Il va probablement revenir à 4-5, mais il traîne comme un boulet ce break tout à l'heure, alors qu'il menait 40-0.
Merci Eric. Le dénouement, l'épilogue de cette finale, c'est à suivre dans le RMC Football Show autour de Gilbert Bribois. Maryse, merci beaucoup. Bonne soirée.
Bonne soirée.
À demain. Salut, Maryse, dans le SMS, évidemment. Oussem, bonne soirée à toi. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous de nous avoir écoutés. Le RMC Sport Show revient dimanche prochain. Bonne soirée. Ciao.
RMC Football Show, Liga Uber Eats.
Aujourd'hui, de plus en plus de gens envisagent sérieusement le travail temporaire pour le sentiment de liberté qu'il procure. Ce qu'ils envisagent moins, en revanche, c'est de vivre avec un sentiment d'inconfort par manque de visibilité sur les prochaines missions. Le problème, c'est qu'on n'a pas l'un sans l'autre. Quoique, il doit bien y avoir des solutions, non ?
On parle beaucoup du monde d'après. Si on parlait aussi du monde du travail d'après, découvrez nos nouvelles solutions d'intérim sur randstad.fr. Randstad, Human Forward, l'humain pour aller plus loin.